y a, et c'est la difficulté de la situation, une multitude de sources qui s'ajoutent, qui se combinent même parfois. Donc le charbon, l'utilisation du charbon pour l'industrie, pour le chauffage individuel également, ou en tout cas de quartier, mais aussi la voiture, sur différentes périodes de l'année, le brûlage de résidus agricoles, mais encore tout ce qui est brûlage de déchets, de choses comme ça. Donc il y a vraiment une multitude de sources qui rend le contrôle de cette pollution très difficile.
On sait qu'avec l'urbanisation de la Chine, il y a eu une explosion du nombre de voitures en un très faible nombre d'années. Est-ce que c'est cette surproduction, surconsommation qui est responsable, ou est-ce que c'est aussi parce que les industries chinoises ne sont pas aux normes ?
C'est-à-dire qu'il y a à la fois un effet d'échelle, et c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête lorsque l'on considère les problèmes que rencontre ce pays. Là, on parle d'un pays qui représente plusieurs dizaines de fois la population française. Donc, il y a effectivement cette nécessité qu'ont les Chinois d'améliorer leurs conditions de vie, et cela passe par un schéma qui est assez proche du nôtre. Dès qu'ils ont un peu d'argent, ils achètent une voiture, ils achètent ensuite un appartement qu'ils chauffent, dans lequel ils essaient de faire entrer le maximum de confort à l'occidental. Et cette surconsommation, elle a un lien direct avec la consommation d'énergie. Donc c'est effectivement un des leviers qui explique cette pollution de l'atmosphère. L'autre, c'est vrai, il y a aussi des industries qui jouent plus ou moins le jeu, mais qui sont, il faut le dire quand même, de plus en plus surveillées. D'abord dans les grandes villes, les grands catalyseurs ont été les Jeux Olympiques à Pékin et l'Expo Universelle à Shanghai, qui ont apporté beaucoup de contrôle par les autorités des industries et beaucoup d'améliorations technologiques pour diminuer leurs émissions. Mais la Chine, ça ne se résume malheureusement pas à Pékin ou à Shanghai ou encore à Canton et d'autres grandes villes. C'est encore une population qui est à l'intérieur des terres, rurale et urbaine. Dans ces régions-là, le contrôle se fait avec moins de sérieux.
Vous avez parlé de l'odeur du charbon qu'on sent même dans des grandes villes. Est-ce qu'il y a d'autres comme ça manifestations évidentes de cette pollution ?
Là, lorsqu'on passe une journée dans une atmosphère comme celle que Pékin rencontre en ce moment et depuis de nombreux mois maintenant, mais aussi à Shanghai et dans d'autres villes à l'intérieur du pays, à Xi'an par exemple, on se retrouve à la fin de la journée avec, lorsque l'on passe le doigt sur son visage, une fine pellicule de suie, de particules noires, de combustion. Il y a toutes sortes d'autres désagréments qui sont liés à cette imprégnation de l'atmosphère par les particules. Parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que la particularité de la pollution dans ce pays, comme dans les pays en voie de développement, c'est moins les gaz comme ceux que l'on connaît chez nous que les particules qui sont en suspension dans l'air, qui ont différentes tailles et qui ont une composition chimique qui est très variable et dont l'inhalation cause des problèmes de santé que l'on clarifie, nous chercheurs, de plus en plus depuis une dizaine d'années.
Là, en 2010, il me semble qu'on a parlé d'un million de morts prématurées dues justement à la respiration de ces particules.
Ce sont des chiffres très importants que l'on a établis avec des grilles de lecture qui sont celles qu'on avait établies dans des pays comme les nôtres. Donc il n'est pas aussi simple de dire, bon, ben, si on a 2, 3, 4 fois plus de particules dans l'atmosphère dans ces pays-là, il y aura 2, 3, 4 fois plus de morts prématurées. Ce n'est pas aussi simple. Le type génétique aussi influe sur notre capacité à répondre à ces stress environnementaux. Donc c'est ce travail-là qu'on essaye, nous, au CNRS, avec nos partenaires de l'INSERM, mais aussi des partenaires chinois, d'établir de manière à avoir une relation dose-réponse qui soit adaptée à l'environnement chinois.
En tout cas, il y a une augmentation des cancers des poumons. Est-ce que ça a un coût pour l'État, cette pollution ?
Ça, c'est une très bonne question, parce que depuis que la Chine a mis en place un système de santé qui est certes imparfait, qui est encore progressif dans sa couverture du pays, mais qui existe depuis 3 ans maintenant, c'est-à-dire à peu près au même moment que les États-Unis ont installé le leur, il y a une relation dans la tête des dirigeants chinois entre la pollution, ses effets sur la santé et le coût économique de cette pollution. On va soigner des personnes de plus en plus nombreuses qui auront des problèmes respiratoires de plus en plus fréquemment. Donc il y a dans la tête des dirigeants chinois ce souci de considérer ce qu'on appelle l'économie circulaire, c'est-à-dire le souci de contrôler les sources de polluants pour mieux contrôler le coût économique que l'exposition à la pollution induit. Il y a dans certaines provinces pilotes des évaluations de fonctionnaires qui se basent non plus seulement sur les performances économiques, mais aussi sur des performances environnementales sur la base d'indicateurs environnementaux qui ont été établis par les Chinois. Donc il y a vraiment une prise de conscience et beaucoup de mesures ont été prises avec succès au moment, je l'ai dit, à Pékin, des Jeux Olympiques, à Shanghai, de l'Expo Universelle. Moi, mon observation, je travaille en Chine sur cette question-là depuis un peu plus de 10 ans maintenant, c'est qu'il y a eu, après cet effort qui était vraiment très important, il y a eu un trou d'air qui a fait que les conditions de pollution se sont dégradées. Il y a visiblement de la part de la nouvelle équipe dirigeante la volonté de reprendre ça en main. Hier, le président se baladait dans les rues pour montrer sa préoccupation. Ça va au-delà de ces affichages-là. Les Chinois sont connus pour prendre des mesures assez drastiques. Je vous en donne deux. Une qui est un peu indicative, mais pour ceux qui sont allés en Chine, et notamment dans la Chine du Nord, ça aura une signification. C'est de moduler maintenant les systèmes de chauffage par appartement et non plus par quartier. J'étais encore la semaine dernière dans un quartier où on est obligé d'ouvrir les fenêtres tant le système de chauffage est mal adapté et chauffe trop. Donc là, il y a de la consommation de charbon, en l'occurrence, qui peut être revue. Et puis, utilisant les nouvelles technologies, les Chinois à Pékin sont en train d'envisager une prévision de la qualité de l'air à 3 jours qui, si les prévisions à 3 jours sont mauvaises, imposera aux autorités de contacter les industries pour leur demander de diminuer leur production et donc leurs émissions de polluants. Il faut voir donc là la prise de risque que cela représente, puisque nous on connaît les prévisions météorologiques, on sait qu'elles ne sont pas toujours justes à 1, 2, voire 3 jours. Donc là, prendre ce chemin-là, c'est une prise de risque qui montre que les autorités chinoises sont prêtes à sacrifier une partie de la production et donc de la performance économique au profit de l'environnement.
Est-ce qu'il y a des plans aussi d'urbanisation qui ont été faits, c'est-à-dire essayer de séparer, de faire des zones industrielles peut-être, mais plus loin des centres d'habitation ?
Oui, ça a été la première chose qui a été faite il y a une dizaine d'années à Pékin, à Shanghai. La problématique, c'est que c'est vrai que lorsque vous résumez maintenant la pollution de l'air dans Pékin intramuros, ça se résume à une grosse contribution des voitures. Les voitures sont partout, il y a des encombrements en permanence. La vitesse moyenne de déplacement en voiture à Pékin est de 7 km/h, donc c'est vraiment terrifiant. Mais dans Pékin, vous avez toute l'influence des industries qui ont été délocalisées. Même à 100 km de là, l'industrie remplit cette atmosphère qui est finalement mélangée sur une très 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 grande surface. Ça se voit sur les images satellites. Toute la Chine du Nord est couverte d'un voile de pollution. Donc là, quand on voit cette image-là, on comprend bien que le seul contrôle de la pollution dans les villes ne suffit pas.
Vous l'avez dit, les grandes villes, ce n'est pas non plus toute la Chine. Il y a énormément de zones qui sont évidemment des zones urbaines, mais des zones de campagne aussi. Est-ce que là, le gouvernement a le contrôle un peu de ce qui passe ? Parce qu'on sait quand même qu'en Chine, les autorités locales sont souvent difficilement contrôlables.
Ah oui, vous avez tout à fait raison, c'est le problème récurrent du fonctionnement de ce grand pays. Il y a effectivement des efforts qui sont pris dans les villes et des efforts qui sont plus difficiles à mettre en œuvre dans les zones qui sont moins directement sous le contrôle de Pékin, pour dire les choses clairement. Il y a une grosse inertie dans ce pays-là. Ce que je voudrais juste dire, c'est que il me semble, moi, malgré les hauts et les bas que rencontre la population, parce qu'il faut vraiment d'abord penser à la population, il me semble quand même que la tendance est à un meilleur contrôle, à une considération non pas seulement économique, mais de plus en plus environnementale, on l'a dit, et aussi de santé. Donc il y a une tendance qui, à mon avis, est dans la bonne direction.
Et pourtant, c'est assez étonnant, on a l'impression que la population, alors peut-être que c'est aussi le phénomène Internet, Weibo, etc., mais que la population est de plus en plus mobilisée, alors peut-être qu'elle était déjà mécontente et qu'elle finalement, elle voit les choses qui bougent et que c'est pour ça qu'elle proteste, mais dans quel état d'esprit aujourd'hui sont les gens ?
Oui, alors ça c'est le phénomène du thermomètre, c'est-à-dire que tant que vous n'avez pas de thermomètre, vous ne savez pas si vous avez de la fièvre ou si fait chaud ou s'il fait froid. Et ça, c'est le résultat d'une meilleure couverture dans le pays par des instruments qui permettent de vous informer du niveau de polluants près de chez vous. Et donc les gens se sont saisis à juste titre, et d'ailleurs c'est fait pour ça. Je ne sais pas si le gouvernement chinois avait prévu l'engouement, si on peut parler d'engouement, soit à ce point, mais c'est fait pour ça. Les gens se sont saisis de ces informations, les ont comparées, et donc ont soulevé des questions, ont poussé les autorités à aller plus loin dans leur contrôle, mais aussi dans l'information. Donc voilà, il y a aussi ça qui fait que, même si c'est un pays qui n'est pas démocratique, il y a une pression. Et on sait que les dirigeants chinois sont très, très, très soucieux de l'équilibre social. Donc voilà, une classe moyenne qui est de plus en plus importante, de plus en plus soucieuse de son confort, on l'a dit, mais aussi de sa santé, qui pousse les autorités à prendre des mesures. Et on l'a vu pour les PM2.5, sans rentrer dans les détails techniques, mais on l'a vu il y a 2 ans, lorsque tous les internautes pékinois ont poussé les autorités à intégrer un nouveau polluant dans leur grille de surveillance de la pollution.